Rosa Candida, c'est donc la rose blanche, c'est le premier roman de cette romancière qui a été traduit en français. Il est paru au milieu de l'année 2010 et il apparaît qu'il connaît un succès de librairie qui va grandissant. C'est un roman, en fait, donc, qui est écrit à la première personne et le jeu qui parle dans le roman est celui d'un tout jeune homme d'une vingtaine d'années. Au nom islandais, je préfère le surnom, c'est Lobby, c'est plus facile à prononcer. Et il nous présente quelques mois de sa vie. Une vie donc qu'il va présenter à partir de son départ de son île natale et quelques mois plus tard il est installé dans un village dans lequel se trouve un monastère médiéval. Il a emmené avec lui des roses, les Rosa Candida, donc ces roses exceptionnelles de 8 pétales qui lui viennent de sa mère et il assurera la garde de sa petite fille que la maman lui abandonne. 330 pages pour cette trame, donc il est clair que nous ne sommes pas dans un roman d'intrigue. Ce roman, à première lecture, paraît comme une sorte de conte populaire et plus d'une fois, on a l'impression de se trouver chez les frères Grimm avec la traversée de la forêt traditionnelle, la scène d'auberge. Et comme dans les contes populaires, on n'aura dans ce roman aucune sorte de repère spatio-temporel. Pas un seul toponyme, l'île quittée n'est même pas mentionnée alors que de toute évidence il s'agit de l'Islande. Plusieurs pays sont traversés par le héros sans qu'on sache lesquels, plusieurs villes sont traversées et on ne connaît même pas l'endroit où il va s'installer. Il s'agit, à mon avis très certainement, d'un monastère médiéval au fin fond de l'Italie, mais on n'aura guère de précision. Aucun problème d'argent dans ce conte rencontré par le héros. Aucun problème de communication. Bref, nous sommes dans les codes du conte traditionnel. Toutefois, il ne s'agit pas vraiment d'un conte habituel, puisque l'aubergiste rencontré n'a rien de l'ogre. C'est au contraire un restaurateur d'une très grande libéralité. Et aucune forme d'opposition ne sera rencontrée par le héros, nous serons plutôt dans le pastiche d'un conte traditionnel. Ce roman fait aussi penser à plus d'un titre à un roman d'initiation, puisque lorsque le héros part, sa mère vient de décéder, son père va avoir 80 ans, il quitte aussi un frère jumeau qui est autiste, il est à peine dans l'avion qu'il est victime de l'appendicite, donc on lui enlève une partie du moi ancien qu'il va laisser derrière lui. Il prend la route des pèlerinages et non pas la grande route. Il a aussi un mentor. Mais à la grande différence des romans d'initiation qui sont ceux de l'Europe des 18e et des 19e siècles, le héros ne perd pas ses illusions. Bien au contraire, il va goûter une forme de bonheur absolu, donc rien à voir avec le Candide de Voltaire, rien à voir avec les illusions perdues de Balzac. À plus d'un titre, à la première lecture, on a l'impression de lire une histoire à dormir debout. Avec ses incohérences, les leçons des événements ne sont jamais tirées, aucune sorte de référence culturelle, aucune sorte d'allusion explicite, mais des jugements qui peuvent paraître saugrenus. Je vous en donne un qui m'a vraiment interpellé. Au début du roman, le héros note ceci: la seule adversité que je rencontre dans la vie est la difficulté à remonter la fermeture éclair de mon pantalon. Ça laisse évidemment déconcertant comme réflexion. Ceci dit, lorsqu'on vient de subir une opération de l'appendicite, c'est peut-être un jugement qui se justifie. En guise de débat d'idées, on a de très longues conversations avec le mentor, qui est un vieux moine du monastère médiéval. Mais ce moine est un féru de cinéma d'art et d'essai. Assez étonnant. Il est aussi un grand consommateur de liqueurs raffinées. Bref, nous sommes dans une histoire à dormir debout, c'est-à-dire, selon le grand propos de Marthe Robert, de celle qui tient le mieux éveillé. Ces histoires donc à dormir debout nous entraînent dans un univers qui est celui de l'imagination. Et qui va livrer des sens à qui veut bien les construire. Alors, je crois que c'est le moment de dire quelques mots très rapides de cet auteur, de cette romancière, qui est féru d'art, qui a fait ses études d'histoire de l'art à Paris, qui est actuellement professeur d'université, donc en Islande, qui est également conservateur d'un musée d'Islande important. Donc, il s'agit pour pénétrer dans ce roman de ce lycée guidé par l'auteur et puis évidemment de ce lycée guidé également par sa culture, et j'ai retenu très rapidement deux pistes qui m'ont intéressé. Le héros est intéressé par le corps, la mort, les roses. Ça revient en leitmotiv, le corps, la mort, les roses. Le corps, c'est le mot par lequel désigne la sexualité, donc l'origine de la vie, la mort, les roses. Autrement dit, il n'y a qu'une seule question existentielle dans la vie, c'est celle de la beauté. Nous ne sommes pas du tout dans un univers d'intellectuels, aucun intellectualisme. Nous sommes aussi au-delà de toutes les questions de la morale. La seule question importante, c'est la question de la beauté. Ce qui fait que ce héros va poursuivre l'œuvre de sa mère qui avait mis au point cette Rosa Candida absolument exceptionnelle, et qu'il va découvrir les joies et le bonheur profond de la paternité, une petite fille qu'il a eue également par accident dans la serre de sa mère, qu'il a fécondé, c'est la graine en fait qu'il a plantée, et il va donc construire cette beauté. La deuxième piste, c'est celle qui nous est indiquée par le titre, Rosa Candida. Rosa Candida renvoie à une autre Rosa Candida qui est celle de l'œuvre de Dante, la Divine Comédie. C'est cet espace circulaire, hein, espace circulaire en fait qui symbolise le paradis. Et on a donc ici, je dirais, une invitation extrêmement profonde qui est lancée par cette romancière. Le paradis n'est pas un paradis perdu pour les hommes, c'est un paradis qui est à construire, c'est un paradis qui est à reconquérir ou un paradis à conquérir. La seule voie pour conquérir ce paradis, c'est celle de la beauté. Les roses sont évidemment les roses blanche, Candida, elles ont 8 pétales. 8, le nombre universel de l'harmonie qu'on trouve absolument partout, et en particulier dans la culture orientale. Donc, pour conclure sur une phrase, je prendrai quand même une phrase de ce moine tout à fait déconcertant qui nous dit ceci: la beauté est dans l'âme de celui qui regarde. Belle formule, autrement dit, vivre, c'est se forger une âme qui puisse contempler et qui puisse construire la beauté. C'est la seule question existentielle qui soit une question, disons, vitale pour l'homme. Je rappelle donc le titre de l'ouvrage, Rosa Candida, le nom de l'auteur, Audou Rava Olav Doutir, et donc c'est publié aux éditions Zulma.